Radio Capi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Des chauffeurs de taxis et taxibus qui profitent de la pénurie du carburant pour augmenter unilatéralement les prix de la course et pratiquer les demi-terrains sont mis en garde. Le général Silvano Kassongo promet des sanctions très sévères à l'endroit de tous ceux qui seront appréhendés. Le groupe armé Mai Mai Kiandenga, associé aux rebelles ADF dans les territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri, recrute des jeunes. C'est l'ONG de défense des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits humains, qui le dénonce. Elle interpelle les habitants du milieu à ne pas adhérer à ces milices. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Dr Marcel Kazadi. Il est médecin coordonnateur provincial du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose au Kassa Oriental. Il nous parlera des innovations qui ont été intégrées dans la prise en charge des cas de tuberculose dans la province. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le général Silvano Kassongo, patron de la police ville de Kinshasa, met en garde tous les chauffeurs de taxis et taxibus qui profitent de la pénurie du carburant dans la ville de Kinshasa pour augmenter unilatéralement les prix de la course ainsi que ceux qui reviennent avec la pratique des demi-terrains autrefois décriés par les autorités de la ville. Dans une interview exclusive à Radio Capi, le commissaire provincial ville de Kinshasa promet des sanctions très sévères à partir de ce jeudi à tout conducteur qui tombera dans le filet de la police nationale congolaise. Général Silvano Kassongo Kitenge, commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le dit au micro de Blaise Nshindani Kambala.
Ce qu'ils font là, c'est du vol. Depuis hier, les gens me rapportent qu'ils déboursent jusqu'à 21 000 francs congolais pour se déplacer. Quand ils seront arrêtés par la police, ils crieront à la tracasserie. C'est le dernier message que je lance aujourd'hui. À partir de demain, nous allons envoyer nos agents sur terrain pour arrêter tous les récalcitrants. Nous savons qu'il y a des difficultés liées à la pénurie du carburant, mais il faut respecter le tarif. Pourquoi revenir à la mauvaise pratique de demi-terrain? Contraindre les gens de débourser jusqu'à 20 000 francs congolais par jour pour arriver à la maison. Mais cette personne-là touche combien à la fin du mois? C'est la méchanceté, ça. Ceci est un avertissement. Je demande à vos associations, ASECO et les autres là, de conscientiser les chauffeurs de façon qu'ils obéissent, qu'ils ne profitent pas du malheur des autres. Au contraire, ayons la compassion entre nous. C'est une difficulté d'ordre mondial, le ministre l'a dit. Tu augmentes les prix en le multipliant par 4 ou par 5 sur base de quoi? Tu agis comme si l'État n'existait pas. Nous allons te démontrer que l'État existe bel et bien. Tu seras arrêté, filmé et ton véhicule paiera de lourdes amendes.
Eh bien oui, sur le terrain, nombreux sont ces chauffeurs de taxis et taxibus qui s'évertuent à la pratique du phénomène des demi-terrains et surtout à revoir unilatéralement à la hausse le prix de la course. Notre reporter qui a été sur le terrain a fait ses constats. En effet, les Kinois sont contraints de dépenser 10 000 francs ou plus en termes de transport par rapport aux 2 000 francs habituellement dépensés. De ces faits, ils demandent aux autorités du pays à prendre leurs responsabilités pour remédier à cette situation. Kelioka nous en dit plus.
Trouver un taxi à Kinshasa devient un grand luxe en cette période de pénurie de carburant. Parmi les habitués du transport en commun, certains parmi eux ont vu leur budget de transport quotidien exploser allant de 2 000 à plus de 10 000 francs. Quelques usagers de transport en commun rencontrés à l'arrêt vers le rond-point Sosimac dans la commune de La Gombe ont exprimé leur ras-le-bol.
Par jour, j'ai dépensé 3 500 francs d'aller et retour à la maison. Mais aujourd'hui, il arrive que parfois je dépense 8 500 francs par jour. C'est-à-dire, je fais des Kitambo ville, c'est-à-dire Gombe, vers le ministère de l'Environnement. Je rentre, j'ai dépensé 3 500, mais actuellement, je commence à dépenser 8 500 francs par jour.
Oui, aujourd'hui, là, vraiment, c'est pratiquement un casse-tête. Hein, parce que d'ici, jusque chez moi, vers ma tété là-bas, je dépense actuellement, quand je sors de chez moi pour rentrer, je dépense 10 000 francs. Donc, c'est vraiment assez quand il faut tenir compte de ce que nous avons à la fin de chaque mois.
Rappelons que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, s'est exprimé à ce sujet le mardi 6 septembre dernier, justifiant cette situation par la baisse sensible de stock en essence et aussi par le fait qu'un plan de contingence a été mis en place afin d'éviter la rupture proprement dite.
Autre nouvelle, dans la province de la Tshopo, les étudiants de l'université de Kisangani ne savent plus à quel sein se vouer. En effet, l'association des professeurs de cette institution, APUKIS, a décrété depuis le mardi 6 septembre dernier une grève sèche et illimitée. En cause, le non-respect des engagements du gouvernement par rapport aux accords de Bibwa, peut-on lire dans le communiqué officiel émis par cette corporation professionnelle. Pendant ce temps, une aile de l'APUKIS, qui réclame être la seule légale et légitime, a publié le même jour un communiqué contradictoire rassurant l'opinion du déroulement normal des activités académiques dans cet établissement. Mais quelle est la situation réelle sur le terrain, Jacques Moukonkolé?
La ronde effectuée au campus universitaire nous a permis de nous rendre à l'évidence. Les cours ne sont pas assurés par les grévistes. Un professeur rencontré après avoir donné cours dit n'avoir pas été informé à temps. Toutefois, il déclare suspendre ses enseignements pour répondre au mot d'ordre de l'APUKIS.
J'étais pas au courant de ce qui s'était passé parce que ils ont tenu leur réunion hier. En même temps, ils ont décrété la grève et moi, c'est ce matin, en venant ici, que j'ai su qu'il y avait vraiment grève et je m'aligne sur ce qui est grève. Non, je n'enseigne pas.
Dans le camp opposé à celui des grévistes figure le professeur Trésor Grison Kakumbi. Selon lui, les activités se déroulent sans désemparer.
Nous invitons les collègues à poursuivre. D'ailleurs, vous me voyez là, je viens de donner la philosophie orale ce matin. J'ai encore cours cet après-midi et vous allez voir partout ici, les gens donnent cours. Donc, les activités se déroulent tranquillement et il n'y a pas grève à l'université de Kisangani.
D'autres professeurs aperçus dans les auditions n'ont pas voulu se confier à notre micro pour, je cite, « ne pas être rangés dans un camp ou dans un autre ». Néanmoins, ils justifient la poursuite de leurs activités académiques par le souci d'encadrement des étudiants. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
En Ituri, l'ONG de défense des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits humains, CRDH, dénonce le recrutement de jeunes par le groupe armé Mai Mai Kiandenga, associé aux rebelles ADF dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. C'est dans un communiqué de presse publié ce jeudi à Komanda, après le monitoring de la situation sécuritaire dans la région. Cette structure interpelle les membres du communauté locale à ne pas adhérer à ces milices. Les autorités locales signalent que certains mécanismes sont déjà mis en place pour dissuader les jeunes. Marcel Kizabiam.
D'après la CRDH, plusieurs miliciens des groupes armés Mai Mai et Kandenga occupent depuis plusieurs mois les forêts situées à l'ouest du groupement Bantivilemba dans la chefferie de Walese Vokutu dans les territoires d'Irumu. Ils ont installé leur bastion à Madinade sur la colline Boutali d'où ils procèdent au recrutement de jeunes. Leur objectif, c'est d'accroître leur effectif en vue d'organiser des attaques contre la population avec leurs alliés des ADF. Même situation dans la chefferie de Babilaba Bombi, où ces mouvements supplétifs des ADEF ont déjà enrôlé plusieurs jeunes à l'âge scolaire. Christophe Mouniadérou, coordonnateur de la CRDH.
C'est un autre groupe ADF qui opère d'une autre manière par rapport à ce que les ADF ont toujours fait. La population civile, la jeunesse, doit se désolidariser avec ces groupes armés. Et si tu es déjà dans ces mouvements, vous devez quitter juste et emporter les programmes de PDDRCS.
L'administrateur du territoire de Mambasa indique que les services de sécurité sont déjà alertés sur les recrutements des jeunes par ces groupes armés dans son entité. Il ajoute que les dispositions sont déjà prises pour mettre fin à cette pratique. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis le maire de la ville de Butembo appelle ses administrés à la vigilance et à faire preuve de prudence en vue de prévenir tout risque d'engin explosif dans la ville. Ce message est consécutif à l'explosion au début de la semaine d'une bombe artisanale piégée devant le bureau de la commune de Boulenguera, faisant 2 blessés. Dans un communiqué lu devant la presse locale mercredi, le commissaire supérieur principal, Moabaeki Téli-Roger, revient sur un certain nombre de mesures de prévention afin de parer à toute éventualité. On l'écoute.
À la suite de la bombe artisanale qui a explosé au bureau municipal de la commune de Boulenguera, laquelle a été déposée par une personne inconnue, j'appelle toute la population boubolaise à la vigilance tout azimut. Il est demandé aux responsables des églises, mosquées et autres assemblées chrétiennes de ne permettre aucun sac d'être admis qu'après fouille systématique par des personnes commises à cette fin pour parer à toute éventualité. Un contrôle rigoureux doit également être mené dans des milliers de réjouissances comme fêtes de mariage, bistrots, restaurants, casinos, hôtels, voire deuil, sachant que la prudence doit être de mise devant les entrées des bureaux, des services publics et privés comme des écoles, institutions d'enseignement supérieur et universitaire.
Les notaires plaident pour la mise en œuvre de l'application effective de la loi des notariats en République démocratique du Congo après sa promulgation en 2016. Une délégation de l'Union internationale des notariats et celle de l'Union nationale des notaires de la RDC l'ont fait savoir hier au cours d'un échange avec la ministre de la Justice ici à Kinshasa. Selon Madame Maoua Koné, présidente honoraire de la Chambre des notaires de la Côte d'Ivoire et membre de la Commission de coopération internationale des notariats, avec les investissements, on est obligé de faire allusion aux notaires parce que leur intervention sécurise les transactions et pacifie la société. Pour André Lobo Kouété, secrétaire général de l'Union nationale des notaires congolais, depuis sa promulgation, la loi sur le notariat souffre d'absence de mesures d'application. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Avec l'avènement de Madame la ministre d'État, elle a mis en place notamment une commission ad hoc chargée de préparer les mesures d'application en question parce que aujourd'hui, l'effectivité de la profession des notaires fait partie des assignations gouvernementales de l'amélioration du climat des affaires. Et donc chaque jour, vous suivez à la télévision que le chef de l'État évalue les ministres par rapport aux assignations qui sont les leurs dans leur domaine respectif. Et donc le notariat, c'est une assignation du ministère de la Justice et Madame la ministre est appelée donc à appuyer, à tout mettre en œuvre pour que cette réforme devienne effective. Les déficits techniques ou opérationnel, c'est un déficit qui ne peut être formé, qui peut être comblé que par la formation. Et vous avez suivi au cours de l'audience que l'Union internationale du notariat est prête à renforcer les capacités des notaires fonctionnaires existants par des formations qu'ils sont prêts à apporter, mais aussi il va des notaires eux-mêmes d'organiser comment ils peuvent renforcer leurs capacités en apprenant. En même temps que nous faisons les travaux ici, nous pensons en même temps comment on va prendre en charge cette formation des notaires.
Autre nouvelle, le comité sectionnaire de l'UNPC Grand Katanga tape du poing sur la table. Tous les journalistes qui travaillent en marge des déontologies et de l'éthique professionnelle seront désormais sanctionnés. C'est confié ce mercredi à Radio Okapi, la présidente de l'UNPC Grand Katanga indique que les abus constatés dans le chef de certains journalistes ternissent l'image de marque de la presse dans cet espace. Marianne Mujing-Yav est au micro de Jean Ngandou.
Nous décrions le fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se font passer pour deux journalistes, se retrouvent en train de monnayer l'information, se retrouvent en train de faire du harcèlement, faire du chantage auprès de tierces personnes, oubliant la mission première d'un journaliste qui est de collecter une information, de la traiter et de la diffuser. Ben, il faut dire qu'il y a une différence qu'il faut faire entre une information et un public reportage. Lorsque celui-là qui se fait passer pour un journaliste se présente pour une information, il n'y a pas à faire monnayer une information. Le code des déontologies est très clair là-dessus, mais aussi les statuts de l'UNPC sont très clairs à ce sujet. Le comité sectionnaire travaille de commun accord avec la commission de discipline. Cette fois-ci, il faut sanctionner et nous allons le faire. Trop c'est trop. Ceux-là qui savent qu'ils sont dans ces habitudes-là, ils doivent s'attendre à ces sanctions et ces sanctions vont tomber le plus vite. Il s'agit de l'avertissement, de la suspension à durée déterminée ou indéterminée, mais aussi il y a des cas où ça sera la radiation.
Et puis, amélioration des conditions de vie des populations riveraines grâce au partage équitable des bénéfices, renforcement de la sécurité dans toutes les aires protégées, mobilisation des financements durables pour garantir l'appropriation communautaire du processus de foresterie. Cela, entre autres, des recommandations issues de la conférence scientifique sur la pré-COP27 qui s'est tenue du 5 au 7 septembre à Yangami dans la province de La Tchopo. Retrouvons notre envoyé spécial Paul Matendo à Yangami.
Ces recommandations sont formulées à plusieurs niveaux. En matière des aires protégées, par exemple, le professeur Marco Pereira du Brésil parle de l'amélioration de la gouvernance des aires protégées par la gestion participative.
L'urgence d'améliorer la gouvernance des aires protégées, notamment par la gestion participative et la mise en œuvre effective des plans de gestion, le développement des mécanismes de financement durable, l'amélioration des conditions de vie des populations.
Éviter à cette rencontre scientifique. Isaias Barreto, représentant de l'UNESCO, affirme que son organisation a mobilisé 2 millions d'euros en faveur de la RDC.
Nous sommes très heureux de mobiliser environ 2 millions d'euros auprès de nos partenaires, notamment auprès de la Belgique, pour lancer prochainement un nouveau projet dénommé Yangambi, pôle d'excellence pour la biodiversité et le climat.
Peu avant de clôturer cette rencontre, Eve Bazaïba a demandé aux scientifiques de construire un réseau de recherche dans leurs domaines respectifs au profit du bassin de la planète. De Yangambi, dans la province de La Tchopo, Paul Matendo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Niger, les dégâts causés par les inondations sont énormes. Plus de 100 personnes ont perdu la vie depuis le début de la saison de pluie en juin dernier, avec plus de 140 000 sinistrés selon la Direction générale de la protection civile du Niger. Et alors que la prise en charge de ces personnes sinistrées se poursuit, certains sites devant les accueillir sont également confrontés à des inondations. C'est le cas de la cité enseignant-chercheur située à 12 km du centre de Niamey. Et puis au Mozambique, une religieuse italienne a été tuée dans une attaque contre une mission catholique dans le nord-est du Mozambique, en proie à des violences djihadistes depuis près de 5 ans maintenant, a annoncé mercredi sa congrégation. En Chine, le bilan du puissant séisme qui a frappé en début de semaine le sud-ouest de la Chine s'est encore alourdi. Jeudi 8 septembre, à 82 morts, la pluie et le risque de couler de bouée compliquant le travail des secours. Un tremblement de terre de magnitude 6,6 avait frappé le lundi 5 septembre le canton rural de Luding dans la province montagneuse de Sichuan, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, cité par l'AFP.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Dr Marcel Kazadi. Il est médecin coordonnateur provincial du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose au Kasaï oriental. Il nous parle des innovations qui ont été intégrées dans la prise en charge des cas de tuberculose dans la province. Dr Marcel Kazadi s'entretient ici avec Esther Ndalafina. Suivez.
Bonjour Dr Marcel Kazadi. Vous venez de clôturer une formation à l'intention de médecins, chefs de zone de santé, des infirmiers superviseurs chargés de la prise en charge de la tuberculose ainsi que des techniciens de laboratoire. Sur quoi a porté cette formation?
En fait, il s'agit de la formation des équipes cadres des zones de santé dans le programme antituberculeux pour la 6e édition, l'Opati 6.
En quoi consiste la 6e édition d'Opati 6?
C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs éditions de programmes antituberculeux, c'est-à-dire suivant comment on traite les malades tuberculeux. Quand il y a des innovations, il faut qu'on puisse se mettre à jour. C'est ainsi que nous sommes partis du Opati 1, Opati 2, Opati 3, Opati 4 et Opati 5, qui est remplacé maintenant par l'Opati 6. Étant donné qu'il y a eu beaucoup d'innovations, surtout dans le dépistage des cas et même dans le traitement de nos malades, nous sommes passés maintenant de la 5e édition à la 6e, pour laquelle nous sommes en train de former les équipes cadres.
Quelles sont les innovations par rapport à la 6e édition?
Les innovations par rapport à la 6e édition, si nous pouvons parler sur le plan du traitement, on a pu éliminer les produits injectables qu'on donnait avant pour les remplacer par des molécules bivalves, qui sont d'ailleurs très puissants et qui nous permettent de guérir nos malades, même les multirésistants. C'est ainsi que l'Asepto a été retiré, la mycacine et la canamycine ont été retirées. Et sur le plan du dépistage, nous avons des machines maintenant qui peuvent nous donner le diagnostic dans peu de temps. En moins de 2 heures, on peut avoir le diagnostic de la tuberculose avec les machines GeneXpert et même avec les machines Trunat. Il y a plusieurs innovations. Le traitement qui pouvait aller jusqu'à 11 mois pour les multirésistants, il peut même être réduit seulement à 9 mois.
Ces innovations sont-elles efficaces?
C'est très efficace. Nous l'avons constaté avec nos malades. C'est vraiment un traitement oral, court, les malades guérissent.
Quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle procédure de prise en charge des cas de tuberculose?
Bon, la différence, c'est qu'avant le traitement, par exemple, de la multirésistance, on avait commencé par 20 mois ou même 24 mois. Avec les produits qu'on continuait à détecter, on est allé de 20 mois à 12 et maintenant à 9 mois. Ça, on a raccourci ce traitement, mais on a retiré les injectables puisque les produits qu'on a trouvés, comme la bédaquiline et même de l'amanide, ça a les mêmes effets que les injectables qui avaient beaucoup d'effets indésirables pour les malades.
Avez-vous des intrants pouvant faire face à cette maladie?
Si le niveau national fait tout pour que nous puissions avoir ces molécules et que nous puissions mettre nos malades en traitement.
Quelles sont les statistiques de la tuberculose au Kasaï oriental?
Par exemple, pour le premier semestre ici, nous avons déjà détecté plus de 10 000 malades pour la tuberculose sensible. Et pour nos malades multirésistants, nous sommes déjà à 125 malades. Pour les multirésistants, on est déjà à 125, disons, jusqu'à ce jour.
Et quelle est la tranche d'âge la plus touchée?
Toutes les tranches sont touchées, que ce soit des petits, des enfants, des vieux.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Darafina.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Coordonnée par Élisée Chikota sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci de nous avoir suivis.